Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Pendant une heure, nous allons découvrir les acteurs de la société qui font bouger les lignes. La France bouge. Ici, c'est simple. On trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Ravi de vous retrouver, Emmanuel.
Et oui, moi aussi, je suis ravi de vous retrouver après ces quelques jours de vacances, chère Elisabeth. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Le secteur de la santé est bien évidemment sous pression avec cette crise du Covid, une crise qui touche durement les pensionnaires, notamment des maisons de retraite. Tiens, et bien justement, à quoi vont ressembler les maisons de retraite demain? On en est où de la vaccination dans nos différents centres de santé? Comment relever le défi du recrutement dans ce secteur? On en parle jusqu'à 14h avec Sophie Boissard, c'est la patronne de Korian et c'est le leader européen du secteur.
À la une, comment aider les personnes à rester autonomes le plus longtemps possible? Eh bien, nous avons trouvé un robot, il s'appelle Cutie et il accompagne la personne âgée dans son quotidien. On va le découvrir d'ici quelques minutes.
Depuis 75 ans, les petits frères des pauvres sont mobilisés pour aider les personnes âgées dépendantes et ce sera notre saga du jour.
Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet dans La France bouge. Le pitch du jour: My Flower Life, une solution pour lutter contre le gaspillage des fleurs et des plantes chez les fleuristes et les jardineries. Ce projet va-t-il vous convaincre? Réponse 13h45.
Et puis demain au travail, nous passerons un coup de fil chez Back Market. Là-bas, tout est organisé pour retrouver le confort du bureau, même en plein télétravail.
Eh bien oui, c'est ça, la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Eh oui, bien sûr qu'elle bouge encore, cette France, et notamment dans ce monde de la santé où il y a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Un soutien à tous ces personnels qui sont en première ligne. Également beaucoup de travail du côté des maisons de retraite. Et on parle de tout cela jusqu'à 14h avec notre témoin du jour.
Bonjour Sophie Boissard.
Bonjour Elisabeth Assayag, merci de me recevoir aujourd'hui.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Korian. Korian, c'est le premier groupe privé européen dans la prise en charge de la dépendance. Environ 1000 établissements, des EHPAD, mais aussi des centres de consultation en ambulatoire, des réseaux de soins à domicile à travers toute la France. Vous avez aussi la marque Petit-Fils. Korian, c'est en tout 57 000 salariés, surtout des femmes. Comment ça va chez Korian en ce moment, Sophie Boissard?
Bah écoutez, ça va beaucoup mieux depuis qu'on a les vaccins, depuis qu'on a maintenant depuis des mois des tests en grand nombre. Et donc la très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, plus de 80% de nos résidents d'établissements, maisons de retraite et cliniques sont vaccinés, double dose. Et c'est spectaculaire. Le nombre de cas de Covid, en particulier les cas graves, maintenant se compte pratiquement sur les doigts des deux mains.
Wow. Là, ce que vous pouvez nous dire dans la France bouge, parce que vous l'avez vérifié maintenant depuis plusieurs semaines, le vaccin est efficace et permet que vous n'ayez quasiment plus aucun cas de Covid à travers l'Europe.
Écoutez, Emmanuel Duteil, on a vacciné 150 000 personnes à l'heure où je vous parle. Nous n'avons eu aucun effet indésirable à déplorer. Et encore une fois, on a vu, au fur et à mesure que la vaccination avançait, le nombre de cas de Covid diminuer. Aujourd'hui, c'est peut-être 0,4% de cas dans l'ensemble du réseau à l'échelle européenne. Et donc, vaccinons-nous,
oui. 85% des soignants, pourquoi pas 100%?
Alors, parce que il y a des cas, lorsqu'on a eu notamment le coronavirus, moins de 3 mois en général, on considère qu'il ne faut pas se vacciner pour éviter d'avoir une sursollicitation du système immunitaire. Donc, il y a différentes raisons qui font qu'il y a des personnes qui ne sont pas vaccinables. Mais aujourd'hui, je considère que 100%, en tout cas des personnes âgées vaccinables, sont vaccinées. Il y a très très peu de cas de refus.
Et des soignants, je parlais des soignants, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat?
Alors, les soignants, à part en Italie, ça reste aujourd'hui volontaire et on est à l'échelle européenne à 55% de soignants vaccinés, mais les campagnes sont en cours. Et le challenge qu'on s'est fixé pour la France, par exemple, c'est 12 000 vaccinations d'ici la fin de ce mois. Les doses arrivent dans les établissements, dans les cliniques, dans les maisons de retraite et on va y arriver très très bien. Et d'ailleurs, on vaccine aussi, avis à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, les proches, toutes les personnes qui sont éligibles à la vaccination et qui veulent profiter des séances de vaccination dans nos structures.
Est-ce que vous sentez malgré tout une forme de réticence d'une partie de votre personnel qui vous dit non, moi je ne veux pas être vacciné?
Ça a été le cas au tout début. Hein. Je crois que les réseaux sociaux au mois de décembre, les campagnes d'antivax ont eu vraiment un effet très très effrayant. Au fur et à mesure que chacun constate à quel point c'est efficace et qu'en réalité il n'y a pas d'effet secondaire, aujourd'hui les refus c'est quoi ? C'est 10%, 10 à 20%.
Vous vaccinez avec quoi chez vous ? De l'AstraZeneca, du Pfizer, du Moderna ?
Alors, on a fait un peu tout, mais principalement du Pfizer BioNTech. Mmh. Et d'ailleurs, chez nous, on l'appelle plutôt BioNTech, parce qu'on a un gros réseau en Allemagne. Et donc, en fait, on l'appelle plutôt sous son nom allemand.
C'est une biotech allemande, BioNTech, qui est le partenaire et qui est celui, finalement, qui a trouvé le vaccin en partenariat avec ce géant Pfizer.
Exactement.
Qu'est-ce que cette crise sanitaire, là, on peut prendre un petit recul, hein. Il y a un an, ça n'avait rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y avait pas de tests, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas de vaccins. Qu'est-ce que cette crise sanitaire change dans votre métier, hein ? Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Korian, plus de 1000 établissements dédiés aux personnes en manque d'autonomie, aux personnes âgées. Qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé ?
Alors cette crise, elle a été évidemment une épreuve terrible. Il y a un an, quand le virus a déferlé sur l'Europe, nous a appris trois choses. D'abord, la résilience incroyable des soignants, des soignantes, qui ont toujours été là, même quand il n'y avait pas de test, même quand on ne savait pas, même quand les écoles étaient fermées. Ils ont toujours été là, elles se sont toutes débrouillées, tous et toutes débrouillées pour être présents. Et donc, il y a eu une espèce d'énorme sentiment finalement de confiance et de solidarité à travers l'Europe qui s'est créée parce que tout le monde a affronté la même chose en même temps et on s'est très très vite mis en situation de prendre le meilleur de chaque pays. Et ça, on va le garder, évidemment, la solidarité et l'agilité. La deuxième chose, ça a été le digital, je crois qu'on en parle un peu plus tard dans cette émission. Comme on devait faire beaucoup de choses à distance, eh bien, le partage d'informations, la capacité à repérer finalement l'évolution du virus, le fait de pouvoir communiquer à distance avec les familles lorsqu'on était en période de confinement strict. Le digital a vraiment s'est installé au cœur des établissements et on se rend compte à quel point c'est un formidable potentiel.
Ça a permis de lutter un petit peu contre l'isolement, puisque c'est bien ça aujourd'hui le drame, hein, que vous vivez là encore en ce moment, puisque malgré les vaccins, les protocoles de visite sont quand même lourds pour les personnels et pour les résidents. Est-ce que ce sentiment d'isolement, vous arrivez à lutter contre aujourd'hui ?
Alors, on n'a plus jamais vécu depuis le printemps, depuis le mois de mai dernier, l'interdiction de visite auquel toute l'Europe a été soumise dans l'incertitude des débuts. En revanche, c'est vrai, vous avez raison, les visites, elles se font avec des masques, elles se font avec des créneaux de visite réglementés pour qu'on puisse désinfecter et s'assurer que tout fonctionne bien, parce que tout le monde n'est pas encore vacciné. Dans la maison, tout le monde l'est, ou presque tout le monde, mais les visiteurs ne le sont pas. Il faut éviter, évidemment, il faut rester très prudent. Ceci étant, on s'est rendu compte à quel point, avec du Skype, on a transformé nos télévisions, par exemple, en écran Skype, de manière à ce que, dans une chambre, on puisse finalement se connecter très simplement avec son fils, sa fille, et converser à distance. Donc oui, il y a plein de solutions. Rien ne remplace évidemment la présence physique, mais il y a quand même beaucoup de moyens de discuter à distance. On a aussi créé un réseau WhatsApp, dédié aux maisons de retraite, vous pouvez poster des photos, des petits messages et on l'imprime sur papier, en gros caractères, et on le remet à la personne âgée pour qu'elle puisse finalement profiter des familles et des petits messages. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut inventer et je crois qu'on a tous été obligés d'être très agiles dans les derniers mois écoulés et tout ça évidemment on va l'emporter avec nous en post-Covid.
Post-Covid, hein, quasiment plus de cas de Covid grâce à la vaccination, c'est ce que vous nous dites, hein, Sophie Boissard, vous êtes la directrice générale de Korian et vous restez avec nous.
Europe 1. Et vous êtes sur Europe 1, il est 13h18.
À suivre, un robot pour accompagner les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes.
Oui, il s'appelle Cutie, c'est mignon comme nom, ouais, et son PDG est avec nous dans un instant. Et on parle santé, notamment maison de retraite, aujourd'hui dans La France Bouge avec notre invitée du jour, Sophie Boissard, qui est la patronne de Korian. Korian, c'est le leader européen, notamment des maisons de retraite.
Et conserver le maintien de l'autonomie le plus longtemps possible, ça passe par des solutions innovantes. On a trouvé un robot et c'est très sérieux. Bonjour Antoine Bataille.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Cutie, C-U-T-2-I. Ça existe depuis 2016. Et Cutie, c'est un petit robot, enfin même grand, hein, un robot qui se déplace et qui permet le maintien à domicile ou en EHPAD des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce robot ?
Alors, c'est un robot qui s'appelle Cutie, donc il est mignon. Parce que cute, en anglais, ça veut dire mignon. C'est en fait un lien avec le monde extérieur. Donc c'est un compagnon, on appelle ça un robot compagnon, Un robot compagnon, c'est comme un ami, comme un animal de compagnie. Et en fait, l'expérience qu'on a déjà, c'est que les gens qui l'ont eu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, s'y sont attachés. Et ils savent très bien que ce n'est pas une personne physique. Mmh. Mais il y a quelque chose dans le cerveau humain qui fait que quand on est avec un objet qui vous parle, qui vous met en communication avec d'autres personnes, qui est là près de vous toute la journée, eh bien vous y attachez.
Concrètement, qu'est-ce qui fait ce robot? Vous le dites, hein, se permet de se mettre en communication avec l'extérieur. C'est ça son rôle principal, et d'échanger avec la personne?
Oui, alors son rôle principal, c'est d'être un lien. En fait, un lien avec le monde extérieur, parce qu'on s'est aperçu que le problème principal des personnes âgées, c'est l'isolement. L'isolement à domicile, l'isolement aussi, même en structure collective. Et le Covid l'a révélé de manière criante. Et qu'il y a une corrélation très forte entre le fait d'être isolé et la santé physique. Et si vous travaillez le mental, quelque part, si vous travaillez la relation... C'est ça qui est très important, c'est
le lien social. Et la stimulation, parce que je crois qu'on peut faire des visites culturelles avec Qt. En tout cas, on est stimulé au quotidien grâce à ce robot.
En fait, mon idée au départ, c'était de se dire que les gens qui étaient isolés, c'est qu'ils n'avaient pas assez de réseau de personnes qui n'étaient pas suffisamment nombreuses autour d'eux. Et mon idée, c'était de dire, en revanche, tout le monde a des hobbies et aime faire des activités. Et donc, que l'activité soit le point de départ pour nous mettre en relation avec d'autres personnes. Et donc, faire des activités en live. Avoir des animateurs.
Par exemple, comment ça se passe?
Alors, par exemple, vous allez visiter une expo à distance. Vous allez visiter un musée. Vous allez prendre un cours de cuisine, faire un cours de gym. Voilà, on a aujourd'hui une vingtaine d'animateurs. On a une trentaine d'animations. Et c'est magique, en fait. Hein.
Mais pardon, mais au cours de cuisine, faire une visite à distance, on peut le faire avec son iPad ou son ordinateur. Quelle est la singularité de votre robot? Il se déplace, je crois, c'est ça?
Oui, d'abord, il se déplace, il est mobile. Et puis, vous lui parlez. Vous ne parlez pas à votre iPad,
on lui suppose. On lui dit quoi, Qt,
vous lui dites, Qt, viens me voir. Et bien, il vient vous voir et il se met à côté de vous. Son écran se met au niveau de vos yeux. Vous avez une vraie relation, vous pouvez lui poser des questions aussi, vous dire quel jour on est, quel temps il fait. Il peut vous rappeler vos rendez-vous, justement les rendez-vous en live que vous avez. Il vous propose de la musique, il peut danser à côté de vous, il peut... vous pouvez avoir des jeux dessus, des quiz, on travaille beaucoup tout ce qui est aspect cognitif pour les gens qui sont un peu en déficience. On travaille très bien avec des gens qui ont Alzheimer, c'est tout à fait étonnant parce que il n'y a pas de barrière technologique.
Vous avez eu l'idée, parce que vous l'avez vu aux États-Unis, mais vous avez décidé de créer votre propre robot à vous. Je crois que l'une des particularités, c'est que vous l'avez créé avec les personnes âgées, celles qui allaient s'en servir. Aujourd'hui, c'est principalement distribué dans les maisons de retraite, hein, ce sont eux vos clients, mais vous espérez arriver bientôt chez nous tous. C'est pour quand?
C'est ça. Eh bien, alors on est déjà dans une quarantaine de maisons de retraite, ça fonctionne bien. On a effectivement, comme vous le disiez, co-créé avec les utilisateurs. Donc ça, c'est un point extrêmement important, parce qu'on ne fait pas des choses pour que les roboticiens soient satisfaits de leur travail, mais parce que c'est un rôle social, parce que c'est efficace. Et alors, vous me demandiez, oui...
À la maison. Parce que le problème, c'est le prix. 5 000 euros, ce n'est pas pour tout le monde.
Alors... Effectivement, le modèle économique pour les EHPAD, il est assez évident. Pour les personnes à la maison, où on a aujourd'hui un test avec à peu près une centaine de personnes aujourd'hui en Île-de-France.
L'idée, c'est de le louer, je crois, quand c'est ça. C'est plutôt de le louer que de l'acheter.
Voilà. Et donc, l'idée, c'est de s'adjoindre une société plus importante que nous, parce qu'on n'est qu'une start-up, pour trouver un modèle économique qui soit adéquat. Mais quand on sait qu'aller en EHPAD, ça peut coûter entre 3 000 et 4 000 euros par mois... et que peut-être que Qt peut prolonger
votre arrivée en EHPAD.
Le calcul est quand même assez évident.
Sophie Boissard, vous êtes la patronne de Corian. Là, on vient de découvrir donc Qt, ce robot complémentaire, hein, ce robot compagnie. Il y en a chez Corian?
Alors, il n'y a pas de Qt, mais on travaille avec une autre société japonaise, Kanpai, avec laquelle on a effectivement testé et déployé des robots humanoïdes dans un certain nombre de structures en France et d'ailleurs ailleurs en Europe. Et on a regardé avec notre fondation et en fait des gériatres comment est-ce que ça s'intégrait finalement dans...
Et comment ça s'intègre ? Il y a des résultats ?
Eh bien, c'est super parce que en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire finalement...
Cette interaction.
De la stimulation, de l'interaction, aussi de la sollicitation à la marche. Que le robot, en fait, vous l'accompagnez et du coup, vous marchez sans vous en rendre compte parce que vous avez l'impression que vous aidez le robot à marcher alors qu'en réalité, c'est lui qui vous rassure et vous soutient. C'est aussi un extraordinaire dérivatif pour des traitements un peu douloureux ou pénibles, notamment aussi pour les enfants. On l'utilise aussi dans les cliniques.
Ça permet de déplacer l'attention.
Exactement. Et donc, oui, ça fait partie de l'arsenal. Et donc, je pense que c'est une très bonne piste.
Oui, une bonne piste pour travailler avec des Français aussi.
Exactement,
c'est important.
J'entends ça. Et pour nous, c'est important.
On en a quand même un chez vous.
C'est important.
Absolument. Mais on a travaillé, on en a un dans un de nos établissements. Et on travaille avec, depuis plus longtemps, effectivement, avec Compaï.
Antoine Bataille, je crois que la suite, c'est l'assistance de nuit avec Qt.
Oui, alors on a plein de projets. Effectivement, ce qu'on appelle l'assistance de nuit, qui est un point vraiment important. Parce que les gens qui sont seuls chez eux, particulièrement, c'est l'angoisse des familles de savoir que...
Bah, que la nuit, ils sont seuls et qu'ils puissent alerter si,
exactement,
en cas de problème.
S'ils tombent et Qt sera là. Et on travaille là-dessus pour prévenir les familles et prendre soin des gens.
Prendre soin des gens. Merci à vous, Antoine Bataille. Vous êtes le PDG du robot Qt.
Et Sophie Boissard, la patronne de Korian, vous restez avec nous. Vous êtes notre grande témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, il est 13h28. Ah oui, à suivre, une association qui lutte contre l'isolement social et la solitude des personnes âgées. Et ça fait 75 ans.
On va faire l'émission à deux voix en temps réel maintenant. Les petits frères des pauvres, ce sera effectivement notre saga du jour dans La France Bouge. Et on parle notamment des maisons de retraite, plus largement des établissements de soins depuis le début de cette émission avec Sophie Boissard, qui est la directrice générale de Korian. Korian, c'est le leader européen du secteur. Vous le disiez tout à l'heure, avant qu'on s'interrompe, Sophie Boissard, ce qu'a montré cette crise, c'est la résilience. Malgré tout, ce qu'elle a montré aussi, c'est les difficultés de vos établissements. Peu de personnel, pas assez de personnel, parfois un manque de moyens criants. Vous avez, le groupe Korian était même assez massivement accusé au début de la crise. Est-ce qu'après ça, vous vous dites... Bah, on doit monter en gamme sans faire payer plus cher, bien évidemment, les utilisateurs.
Écoutez, dire pas assez de personnel, je crois que ça n'est pas vrai. L'année dernière, en 2020, en France, on a recruté plus de 5000 personnes, des aides-soignantes, des infirmières, des professionnels de santé à temps plein. Et on a par ailleurs fait venir plus de 7000 renforts pendant les deux périodes de vagues épidémiques pour remplacer ou compléter les équipes lorsqu'il y avait effectivement des suspicions ou des cas avérés de Covid. Donc simplement, ça veut dire de s'organiser parce que les besoins vont croissant, parce que il faut en maison de retraite pouvoir accompagner des personnes qui sont plus ont besoin de plus de soins, qui sont plus lourdement dépendantes. Il faut accompagner aussi toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui sont chez elles et qui entendent bien le rester, mais qui ont besoin d'avoir du coup un suivi de proximité. Donc globalement, la France vieillit, on vit plus longtemps, c'est une très bonne nouvelle, et il faut évidemment qu'on s'organise pour pouvoir accompagner cette révolution d'une certaine de manière démographique qui est devant nous.
Mais alors Sophie Boissard, vous dites qu'il faut l'accompagner, cette évolution démographique. Ça signifie qu'en ce moment, vous recrutez, vous allez former?
Alors, on recrute. Chaque année, dans les années qui viennent, à travers l'Europe, on recrute en moyenne entre 10 et 12 000 personnes par an, essentiellement des soignants. Et pour ça, en fait, moi, je suis très claire. Je veux qu'on puisse faire partout ce qui existe déjà largement en Allemagne, par exemple. C'est de l'alternance.
Donc, prendre une personne et la former.
Alors, ça veut dire qu'on prend des jeunes sortis d'école, sortis du lycée ou qui ont d'ailleurs commencé l'université mais qui finalement viennent vers nos métiers et sur des parcours qui vont être de 18 mois, de 3 ans, ça dépend du diplôme qu'ils visent, eh bien, ils sont en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont payés, qu'ils ont un maître de stage chez nous, qu'ils ont une école ou un centre de formation à proximité et qu'ils alternent entre des périodes théoriques et surtout de la période de mise en situation.
Mais comment leur donner envie? Comment revaloriser, rendre ce métier attirant, j'ai envie de dire? C'est pas glorieux, on l'a vu là depuis ces derniers mois. Ça a beaucoup de sens, c'est très humain, mais c'est mal payé. C'est épuisant, ce sont énormément d'heures, c'est pas toujours des vacances, c'est pas toujours des week-ends. Comment vous allez faire pour attirer les jeunes?
Mais ça, c'est votre vision du métier, Elisabeth, si je puis me permettre. Sachez aujourd'hui qu'une aide-soignante, lorsqu'elle entre, prend son emploi juste sorti de diplôme, elle va gagner en brut salarié 1 906 €. Et en moyenne, une aide-soignante chez nous, elle gagne un peu moins de 2 200 €. Sachez qu'un agrégé, professeur agrégé, quand il commence, il gagne moins.
En termes de rythme,
1 800.
Et alors, en termes d'épuisement. Alors non, là aussi, je fais fausse route. C'est très.
Non, il y a plusieurs. Bien sûr, c'est des métiers extrêmement exigeants parce que c'est des métiers qu'on ne peut pas faire à moitié. C'est des métiers qui sont très engageants. Vous n'êtes pas en pilotage automatique, vous êtes auprès de la personne que vous soignez.
Il y a la technique et de l'humain. Il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de l'empathie.
Et il ne faut pas se laisser, submerger d'une certaine manière par les émotions et le ressenti. Donc il faut trouver à la fois la proximité, la juste distance. Et puis c'est des métiers physiques, au sens où on est en mouvement, on se déplace. Et donc pour ça, c'est très important d'avoir les bons gestes, d'être bien équipé. Donc oui, c'est des métiers exigeants. Mais c'est des métiers en même temps dans lesquels on y appartient à une équipe. On n'est pas tout seul. C'est des métiers dans lesquels, quand on se lève le matin, on ne se demande pas quel est le sens de ce que l'on fait. C'est des métiers dans lesquels il y a une reconnaissance. Vous ne pouvez pas imaginer la reconnaissance qui s'exprime de la part des patients, de la part des proches. Et donc, c'est des métiers, en fait, émotionnellement, incroyablement exigeant dans le plus, dans le positif, et aussi évidemment lorsqu'on est confronté à des situations difficiles aussi avec des émotions qu'il faut arriver à surmonter. Pour ça, plusieurs choses. D'abord, évidemment, la cohésion d'équipe et des environnements de travail agréables. Donc on investit beaucoup, on a parlé de robots, on investit beaucoup dans tout ce qui peut aider à ne pas porter un malade qui ne peut pas se déplacer, tout ce qui est en fait équipement. Premièrement,
du monde, on l'a tous entendu, ouais. Une aide-soignante pour 5 ou 6 résidents, parfois c'est compliqué quand il y en a un qui appelle, qui a besoin de faire une toilette, l'autre qui a soif. Comment vous faites là? Ça veut dire que vous allez les motiver comment?
Ça veut dire qu'il faut des organisations d'équipe très fortes, où chacun sait ce qu'il a à faire et où on se prête main forte. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut du personnel effectivement stable, en nombre suffisant, pour que quand il y en a un qui est absent, eh bien on sache comment réorganiser l'équipe sans avoir à chercher à l'extérieur du renfort. Et donc c'est pour ça que chez Korian, depuis maintenant 3 ans, on a beaucoup, beaucoup poussé tout ce qui est cette anticipation de recrutement, ce qui est aussi cette capacité à faire appel à l'alternance.
On peut prendre l'exemple aussi de ce que vous venez de finaliser, ce qu'on appelle les emplois passerelles, hein, une entreprise qui doit se séparer de ses collaborateurs pour une raison économique bien souvent. Là, on peut prendre l'exemple du groupe de Richebourg. Et vous avez formé une 50aine de leur personnel à devenir notamment aide-soignant et aide-soignante. Et la première promo arrive chez vous. Ça, c'est des choses que vous allez continuer aussi?
Absolument, ce sont nos pionnières. L'objectif, c'est qu'en France, on puisse avoir 200 personnes qui sont déjà des salariés expérimentés dans un autre secteur d'activité. Ça peut être le commerce, ça peut être effectivement la propreté, ça peut être la restauration, qui ont envie, à un moment de leur carrière, d'aller vers les métiers de la santé, de l'aide à la personne. Et on va les inscrire comme des jeunes en alternance dans un parcours de formation. Et elles vont avoir 14 mois. Elles aussi, ils auront un tuteur. Ils auront
un établissement. Il y a beaucoup de femmes chez vous. Hein. Il faudrait qu'il y ait des hommes aussi qui viennent. Hein.
82% de femmes, effectivement. Ah ouais. Et je suis d'accord avec vous. Ce sont des métiers d'hommes et de femmes. C'est des métiers de sens. Et voilà, tout le monde y a sa place. Et donc, voilà, c'est de l'alternance pour dans une deuxième partie de vie. Et ça permet, à la sortie de ça, 14 mois, on est payé, on garde son contrat chez son précédent employeur, on a son tuteur, on a des cours. Et puis, au bout de 14 mois, on passe son diplôme d'État, d'aide-soignante, en tout cas pour cette opération avec de Richebourg. Et ensuite, évidemment, un CDI chez nous, dans un établissement que l'on connaît.
Alors voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment ou jamais de regarder, d'aller sur le site internet de Korian et de s'y intéresser. Chaque jour dans la France bouge, Sophie Boissard, on se pose et on découvre l'histoire d'une institution, d'une marque ou d'un produit, d'un endroit qui ont traversé des générations en France. Aujourd'hui, gros plan sur une association qui a 75 ans cette année. Elle lutte contre l'isolement social et la solitude des personnes âgées qui s'accentue avec les confinements à répétition.
Oui, cette association, c'est les petits frères des pauvres, hein, qui a su traverser différentes crises. Et c'est Charlotte Barrican de l'équipe de la France Bouge qui nous raconte cette saga.
Europe 1, la France bouge, la saga.
C'est un jeune bourgeois parisien, Armand Marquisé, qui crée les Petits Frères des Pauvres en 1946. Il grandit dans le luxe, mais à ses côtés, sa grand-mère lui rappelle sans cesse l'importance d'aider les autres. À l'âge adulte, il décide de dédier sa vie aux plus démunis. Il se rend compte alors que ce sont les vieillards qui n'ont plus de quoi manger. Claire Granger, directrice des ressources pour l'accompagnement au sein des Petits Frères des Pauvres.
Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de retraite du régime général, ça n'existe pas. Tout le système de protection sociale n'est 1946. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui ont tout perdu pendant la guerre, y compris leurs enfants, qui n'ont absolument plus rien. Ils ont un problème de chauffage, hein. On se chauffe au charbon à l'époque, et un problème alimentaire. C'est très simple. Armand Marquise mobilise des hommes jeunes. Ils vont faire des choses très simples. Ils vont apporter des colis alimentaires. Ils vont apporter des repas. Ils vont monter le charbon pour que vraiment ces vieillards isolés, démunis, terminent leur vie dans de bonnes conditions.
Par la suite, les petits frères des pauvres vont chercher des alternatives aux hospices et ils offrent des soins aux personnes âgées. Et puis en 1962 est publié le rapport Larocque. Il dénonce cette situation précaire des seniors en France. L'État prend alors en charge la santé des plus âgés et les petits frères des pauvres se recentrent sur le cœur de leur mission, l'isolement.
Les petits frères des pauvres, ce sont des bénévoles. Majoritairement, on est une association qui mobilise plus de 13 000 bénévoles qui vont vraiment être plutôt dans une action relationnelle, rompre l'isolement des personnes âgées. Alors avec certains, il va y avoir, on va lire un livre. Avec d'autres, on va écouter de la musique. Avec certains, il va falloir partager un café et puis parler de la pluie et du beau temps. Et les petits frères des pauvres, ils vont là où habitent les personnes âgées.
Aujourd'hui encore, leur temps fort sont les vacances dans l'une des 16 maisons de l'association, l'occasion pour les seniors isolés de partager des moments conviviaux.
Moi, j'ai été impressionnée par des personnes dont le plaisir, c'est de manger un pot-au-feu. Parce que quand on est seul, on ne fait plus ces plats-là. Et pendant un séjour vacances, quand on mange quelque chose de fait maison, il peut y avoir beaucoup de souvenirs qui remontent. Et ces souvenirs-là, on ouvre une porte avec ces souvenirs gustatifs à tout un pan de vie des personnes.
Depuis le Covid, les visites sont plus difficiles, des lignes d'écoute ont donc été mises en place. Les donateurs, heureusement, sont toujours au rendez-vous. Et cette année, les petits frères des pauvres espèrent accueillir de nouveaux bénévoles. Son objectif, créer 40 nouvelles équipes. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater sur petitsfrèresdespauvres.fr.
Et c'était la saga du jour racontée par Charlotte Barrican. Notre grande témoin aujourd'hui, c'est Sophie Boissard, qui est la directrice générale de Korian, l'un des leaders en Europe de tous les métiers de la santé, les métiers de soins et notamment du côté des maisons de retraite. Parmi les évolutions qui sont extrêmement importantes dans votre métier aujourd'hui, là aussi, la télémédecine, la téléconsultation, plus que jamais, ça vous apporte une clé pour faciliter tous ces rendez-vous médicaux?
Ben, ça nous apporte d'abord une clé pour proposer à nos maisons de retraite 7 jours sur 7 et notamment le week-end.
Oui, le week-end, au lieu d'appeler le 15, là c'est bien d'avoir une téléconsultation à 2h du matin.
Alors on a construit une plateforme avec deux anciens urgentistes qui dirigeaient un service d'urgence dans l'Est de la France, désert médical, vous savez, et qui se sont dit comment est-ce qu'on peut s'organiser pour finalement pouvoir remplacer les médecins lorsque c'est le week-end, lorsque
ils sont pas là.
Et désengorger le SAMU. Et donc, on a créé cette plateforme, ça s'appelle Omedis. On dessert aujourd'hui tout l'Est de la France. Et petit à petit, on est en train de couvrir en fait, l'ensemble des territoires français en faisant intervenir dans les médecins qui consultent, nos propres médecins. Et comme ça, chacune de nos structures.
Ça représente
peut
combien aujourd'hui, par exemple, dans l'Est de la France, proportion de consultations que vous faites par ce biais-là?
Alors écoutez, l'année dernière, on a fait 10 000 consultations. Et ces 10 000 consultations, ça a été pour se dire, est-ce que aider face à une situation que la maison ne savait pas trop qualifier, ça a été aussi pour rassurer des salariés qui se disaient, est-ce que j'ai pas le Covid, est-ce qu'il faut que je, enfin comment, pour essayer aussi de donner un peu de sérénité. Et puis ça permet aussi de qualifier, de dire non, là il faut vraiment aller consulter, donc il va falloir organiser un transport sanitaire, etc. Et du coup, cette téléconsultation, c'est du plus. Ça se substitue pas évidemment à la présence physique du médecin traitant, mais c'est vraiment la certitude que quoi qu'il arrive, on aura quelqu'un de très compétent qui va pouvoir aider l'infirmière de nuit finalement poser le bon diagnostic et savoir quoi faire. Et moi, je crois vraiment que ça fait vraiment partie des solutions qui vont s'installer dans la vie quotidienne.
Et c'est déjà le cas.
Et c'est déjà le cas chez nous.
Sophie Boissard, vous êtes la directrice générale de Korian. Avant l'entrée en EHPAD, on peut aussi trouver un entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut conserver sa mobilité. Parfois, il suffit juste d'être bien accompagné. Et là aussi, Korian, vous intervenez. Vous pouvez créer des lieux de vie, des systèmes de colocation pour les personnes âgées, pour pas qu'elles soient seules.
C'est ça, et c'est un peu dans la droite ligne de ce qu'on entendait avec les petits frères des pauvres. Souvent, dans les régions un peu plus rurales, lorsqu'on est veuf ou veuf dans sa maison, un peu isolé du centre du bourg, ça peut être un peu difficile. On commence à se sentir un peu en fragilité, c'est dur d'avoir de la visite. On a un peu peur de prendre la voiture. Mmh. Et c'est pour ça qu'avec AGV, qui est une petite entreprise franc-comtoise dans laquelle on a investi, avec le Crédit Agricole qui connaît bien ces régions, avec la Banque des Territoires aussi, on s'est mis à construire en fait ce qu'on appelle des colocations. C'est 8 personnes sous un même toit, chacun son grand studio, chacun son petit bout de jardin.
L'auberge espagnole façon
exactement, une grande pièce commune. On fait le pot-au-feu où on fait on fait les courses localement. Il y a une auxiliaire de vie qui habite sur place avec sa famille et qui est d'une certaine manière le bon génie du foyer. Oui. Et ça c'est super, ça marche super bien.
Et ça permet effectivement de reculer l'entrée en maison de retraite. Sophie Boissard, vous êtes la directrice générale de Corian, vous restez avec nous. Avec ce temps fort maintenant de La France Bouge, le pitch du jour, on va vous demander de porter d'une certaine manière votre casquette de coach pour conseiller un entrepreneur qui se lance.
Europe 1, il est 13h44, à suivre le pitch du jour, My Flower Life.
Oui, récupérer des fleurs ou des plantes des jardineries pour ne pas les laisser mourir dans les poubelles, c'est dans un instant. Suite de cette France Bouge, et c'est le moment du pitch. Un jeune entrepreneur ou une entrepreneuse vient chaque jour comme ça présenter son projet devant l'œil attentif de notre grand témoin du jour. En l'occurrence aujourd'hui, Sophie Boissard qui est à la tête de Corian. Et bien évidemment, Nathalie Carré de la CCI. Place donc maintenant au pitch.
Et là, c'est un projet qui est né en décembre. Eh bien oui, il a osé monter son entreprise en pleine crise sanitaire. Donc déjà, bravo avant même de commencer. Bonjour Erwan Huet.
Bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes bordelais, vous êtes le fondateur de My Flower Life. Ce sont des fleurs, des plantes ou encore des bouquets à prix doux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus leur place dans une jardinerie, n'ont plus leur place chez un fleuriste. Alors au lieu de les mettre à la poubelle, eh bien, votre solution à vous, c'est de les sauver. Vous allez nous raconter votre histoire, l'histoire de My Flower Life. C'est parti, vous avez une minute. Allez-y, on vous écoute.
Bonjour, alors My Flower Life, c'est une solution gratuite qui a pour objectif d'aider les professionnels des végétaux à sauver de leur poubelle des plantes, des fleurs qu'ils auraient pu sauver davantage. Sur le site My Flower Life, nous proposons des végétaux entre -30 et -70% de la valeur initiale. Alors My Flower Life, comment ça fonctionne concrètement? Les fleuristes et les jardineries s'inscrivent gratuitement, déposent des annonces en quelques secondes pour les mettre à disposition des clients. Quant à eux, les utilisateurs se géolocalisent, trouvent des annonces à proximité d'eux et achètent directement les végétaux proposés par nos flower partenaires sur le site. Les utilisateurs iront chercher leurs achats directement à la boutique choisie. Ils profitent donc de prix doux tout en faisant un geste pour la planète.
Ben voilà, bravo déjà Erwan pour ce pitch.
Oui, bravo pour votre pitch. Donc chaque jour après votre pitch, il y a Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie qui est en charge de l'entrepreneuriat, qui vous a écouté attentivement. Auparavant, elle a étudié votre dossier et je vous propose de l'écouter. Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Erwan, bonjour Emmanuel. Alors effectivement, les trois points positifs, on a donc eu les repas à prix réduit sur Too Good To Go et voici donc une excellente idée pour éviter de jeter les végétaux. Au-delà de ça, ça permet au plus grand nombre d'avoir des plantes et des fleurs chez soi car c'est une vraie source de bien-être. Et puis bien sûr, c'est un moyen pour les fleuristes partenaires de se faire connaître. Alors les points améliorés, clairement, vous avez besoin de partenaires pour proposer des plantes. Peut-être que vous pouvez mettre les citoyens à contribution pour qu'ils parlent de votre site à leur fleuriste local contre un petit cadeau ou par les associations de commerçants. Et puis peut-être aussi que vous pourriez démarcher les quelques fleuristes les plus en vue sur les réseaux sociaux de chaque métropole pour leur demander de vous rejoindre dans votre engagement et profiter ainsi de leur visibilité. Et puis, une dernière suggestion, demain, quand tout sera redevenu normal, pensez aussi aux plantes à la fin des salons et des événements qui ne sont pas toujours récupérées et que vous pourriez reproposer aux citoyens.
Alors Erwan, qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouve que c'est de bonnes idées. Effectivement, on essaye de mettre en place au fur et à mesure de l'évolution du projet des partenariats avec des fleuristes. C'est vrai que c'est assez fastidieux parce qu'il y a plus de 15 000 fleuristes à travers toute la France. Donc moi en plus je suis seul dans mon activité, je la lance seul. Donc ça prend beaucoup de temps d'appeler, de prendre le temps de convaincre les gens. Mais effectivement,
c'est difficile de les convaincre parce que c'est quand même un très bon plan pour eux aussi.
C'est difficile parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas forcément pour revendre leur gaspillage, leurs invendus, donc par rapport à l'image que ça peut donner. Donc oui, c'est pas toujours évident de les convaincre. En tout cas, pour le moment, on a réussi à convaincre une quinzaine de fleuristes à travers toute la France, à Bordeaux, un petit peu à Paris et dans d'autres villes que je vous laisse découvrir sur le site.
Sophie Boissard, patronne de Corian, quelle est votre vision de ce projet entrepreneurial ?
Moi, je le trouve passionnant et puis vraiment, il coche plein de cases, comme vient de le dire Nathalie. Nous, en tout cas, ces 400 établissements à travers la France, ils ont tous un jardin, une terrasse, un parc. On est très grands consommateurs de végétaux, précisément parce que c'est ce qui rend la vie plus belle. Ça permet aussi de soutenir plein d'activités. Donc, j'ai déjà bien en tête de voir avec notre responsable
à faire,
des achats.
Hein,
si on a moyen de faire une petite passerelle, ouais, avec nos pépiniéristes, avec nos paysagistes, tous ceux qui interviennent en fait pour entretenir, aider à l'entretien de ces espaces. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour faire de la mise en relation?
On va vous laisser parler hors antenne pour cette mise en relation. Erwan Huet, comment pouvons-nous vous aider? Donc, on vous a déjà trouvé peut-être un futur contrat donc avec Corian. Comment on peut vous aider très concrètement? Vous avez besoin de fonds en ce moment?
Là, concrètement, effectivement, j'ai besoin de fonds. S'il y a des investisseurs qui sont intéressés par le projet, pourquoi pas me contacter? Et puis après, pour m'aider concrètement, là, dans l'instantané, j'ai envie de dire rejoignez l'aventure, rejoignez en tant que flower partenaire l'aventure et sauvez avec nous des végétaux à travers toute la France.
Sauvez des végétaux à travers toute la France. Merci à vous, Erwan Huet. Je rappelle que vous êtes le fondateur de My Flower Life.
Et merci, comme toujours, à Nathalie Carré, que l'on retrouvera avec plaisir demain. Si vous voulez venir candidater et annoncer comme ça votre projet, eh bien, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Sophie Boissard, vous êtes la directrice générale de Corian. Suite et fin de votre émission, vous restez avec nous encore quelques minutes, s'il vous plaît.
Europe 1, et il est 13h52.
À suivre demain au travail, notre société change et nos entreprises aussi.
Oui, on va passer un coup de fil chez Back Market là-bas, c'est le confort assuré, même en télétravail. Et nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Sophie Boissard, qui est la directrice générale de Corian.
Bonjour Pierre Mottet.
Bonjour, vous êtes
culture manager chez Back Market. Back Market, c'est une plateforme avec des produits reconditionnés, hein, par exemple des téléphones portables remis à neuf par des professionnels. Vous êtes 450 salariés dans le monde, ça existe depuis 2014. Et vous avez toujours été à l'aise, hein, avec la culture du télétravail, mais avec les confinements, vous vous êtes dit, on doit fournir à nos salariés du bon matériel, faut qu'ils aient un certain confort. Et c'est ainsi que vous avez trouvé le bureau un peu de nos rêves, hein, le bureau qu'on peut mettre partout dans la maison quand nous sommes en télétravail.
Exactement. En fait, on s'est tous retrouvés en mars l'année dernière à travailler au bout de notre lit, à travailler sur un tabouret, à travailler sur la table de la cuisine. Et on s'est dit, OK, maintenant, il faut qu'on agisse. On ne peut pas laisser nos employés bosser comme ça. Et donc, on a naturellement, on s'est rapproché de Flix, qui, eux, proposaient une solution trop cool. De pouvoir mettre à disposition un bureau, une chaise, un double écran.
Mais ils ont quoi de particulier ?
Ils ont la particularité de pouvoir s'insérer un peu partout, qu'on soit à la campagne, dans un petit studio, qu'on soit un peu partout. Et donc, on a plusieurs tailles. Mais c'est surtout, on n'a pas l'impression d'avoir un grand bureau chez nous avec une grande chaise noire.
Oui, ça, c'est plutôt une sorte de console qui est presque jolie quand on a fini de travailler.
Exactement. L'idée, c'était vraiment que les employés puissent travailler sur un endroit différent que la table où on siège, où on déj, et où on dîne. Quoi.
Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est vous qui payez tout, le bureau, la chaise, de façon à ce qu'on puisse être installé à la maison.
Et qu'il n'y ait pas d'excuses,
exactement.
Hein, surtout. Il y a un peu de ça, non?
Non, mais c'est surtout... Non, franchement, on n'était pas du tout là-dessus. C'était vraiment pour qu'on puisse travailler de manière correcte et confortable, même chez soi. Et du coup, à terme, parce que l'idée, c'est qu'on va tous travailler de manière différente dans les prochains mois, et on le voit déjà en ce moment. Et donc, c'est de pouvoir être bien, quoi, tout simplement.
Sophie Boissard, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Corian. Il y a du télétravail, j'imagine, aussi chez vous, notamment au siège. Vous avez équipé vos salariés pour qu'ils soient bien à la maison ?
Alors, le télétravail, il y en a effectivement, c'est 1000 personnes sur 25 000 en France. Mmh. Donc, vous voyez, la plupart sont évidemment au chevet des résidents ou des patients qui les accompagnent. Oui, bien sûr, on a surtout investi. La première chose qu'on a fait, ça a été d'investir dans des écrans, des grands écrans confortables, parce que c'est vrai que c'est difficile toute la journée de travailler sur un petit écran de portable, surtout lorsqu'il s'agit de faire une paye ou de rentrer des factures.
Et le confort aussi, c'est important, j'imagine, les bureaux, les chaises, vous êtes adapté aussi là-dessus.
Absolument. On regarde comment rendre la vie de nos collaborateurs plus confortable à la maison. Et chacun a aussi envie, je pense, le moment venu, aura envie de revenir aussi travailler avec ses collègues, parce que c'est un peu dur, la maison, même avec un très très bon fauteuil.
En tout cas, avec un très bon fauteuil et un bureau, c'est ce que vous faites chez Back Market. Merci à vous, Pierre Mottet.
Et c'est déjà la fin de votre émission. Un grand merci à notre témoin du jour, Sophie Boissard, la patronne de Korian.
Emmanuel, on se retrouve demain. Nous allons parler de quoi demain ?
Eh bien, on retourne à l'école demain. On sera avec la patronne de l'école 42, qui est l'école qui avait été créée par Xavier Niel, pour nous apprendre tous à coder notamment.
Eh bien, à demain, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1, la France bouge.